Le journal est présenté par Louis de Bergevin.
Bonjour à tous. Des manifestations à Paris aujourd'hui contre la PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée étendue aux couples de femmes et aux femmes seules. Les organisateurs espèrent mobiliser autant que lors des manifestations contre le mariage pour tous il y a 7 ans. Ils ont affrété une centaine de cars et de TGV. Dans ce journal, on sera en direct du départ de la manifestation. Les suites de l'attaque de la préfecture de police jeudi, elle a fait 5 morts, dont le tueur. Le Premier ministre Édouard Philippe veut revoir en profondeur la procédure de signalisation des comportements suspects. La situation est toujours tendue. À Hong Kong, des milliers de personnes défilent en ce moment sous la pluie et malgré les interdictions de manifester. Les opposants à la PMA pour toutes se rassemblent à Paris. Ils manifestent cet après-midi contre l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rue de Tournon, au pied du Sénat, là où les manifestants commencent à se rassembler. Est-ce qu'il y a déjà du monde ?
Bien écoutez, la place commence à se noircir de monde. On en est à environ un millier de personnes rassemblées, beaucoup de familles avec leurs enfants et des personnes âgées. Elles ont ressorti les drapeaux roses et bleus de la manif pour tous et le dernier né, liberté, égalité, paternité avec ses déclinaisons vertes et rouges. De nombreuses banderoles également des villes et des régions, Charente-Maritime, Vendée, Belfort, Cambrai ou encore Valenciennes. Des TGV et des cars entiers sont arrivés ce matin pour rejoindre cette nouvelle manifestation, cette contre la PMA pour toutes et la GPA. Départ prévu dans une demi-heure du Sénat vers la place Montparnasse. Un trajet assez court qui laisse penser que les organisateurs ont anticipé une plus faible mobilisation que lors de la légalisation du mariage homosexuel. Avec la légalisation de la PMA pour toutes les femmes, on est sans doute moins dans la transgression d'un tabou. Il y a peut-être aussi l'idée, chez certains opposants au mariage gay, que l'efficacité de ces manifestations est limitée. Des centaines de milliers de personnes dans les rues en 2012 et 2013 n'ont pas empêché l'adoption de la loi. Et le soutien de la droite à ce mouvement a été de courte durée, puisque désormais, très peu de responsables politiques sont prêts à revenir en arrière. À quoi bon alors manifester contre la PMA pour toutes, rebaptisée ici la PMA sans père, c'est en y voyant d'autres enjeux, comme celui d'une prochaine légalisation de la GPA. Alors cela suffira-t-il à mobiliser la France conservatrice ? Réponse cet après-midi.
Merci Antoine, le cortège partira dans une demi-heure. Le Premier ministre veut enquêter sur les agents des services de renseignement. Il l'annonce dans le journal du dimanche ce matin. Après l'attaque au couteau qui a fait 5 morts jeudi, l'assaillant faisait partie de la préfecture de police. Alors Édouard Philippe souhaite resserrer les mailles du filet. Il va lancer 2 missions pour détecter les signes de radicalisation à caractère islamique. Adrien Palluet, bonjour.
Bonjour.
Ces 2 missions, c'est pour éviter tout simplement une nouvelle attaque de ce type.
La première mission est confiée à l'inspection générale du renseignement. Une enquête sera menée au sein de la préfecture de police de Paris, là où travaillait Michael Harpon depuis 2003. Les premières conclusions sont attendues pour la fin du mois et la seconde enquête visera, elle, l'ensemble des services du renseignement français. Édouard Philippe a demandé une revue en profondeur des procédures de détection, de signalement et de traitement des processus de radicalisation. Une enquête qui devrait aboutir à la fin de l'année, mais pour Éric Dénessé, spécialiste du renseignement, ces missions n'auront que peu d'effet.
Je crois qu'on est là vraiment à 100% dans l'annonce politique. Pourquoi ? Parce que la première mission, de toute façon, elle aurait été faite. À partir du moment où on est confronté à un événement de cette nature ou à une action d'espionnage, qu'est-ce que fait le service ? Eh bien, il va chercher immédiatement à évaluer les dommages qui ont été causés par la personne qui a peut-être pu travailler pour Daesh, Al-Qaïda ou un réseau islamiste. Le deuxième aspect qui est de dire comment est-ce qu'on peut renforcer la sécurité sur à l'avenir, mais en réalité, ça veut dire que de toute façon, il va falloir plus d'effectifs. Parce que comment lutter contre l'islamisme si on n'a pas au sein même de nos services des gens qui ont une double culture, qui peuvent être originaires par leurs parents d'Afrique du Nord, qui peuvent être musulmans. Et donc ça va entraîner soit de la suspicion, soit un nombre de vérifications beaucoup plus important.
En juin dernier, un rapport d'information sur les services publics face à la radicalisation a été présenté à l'Assemblée nationale. Sur 150 000 fonctionnaires de police, 28 personnes font l'objet d'un suivi pour radicalisation.
Merci Adrien, et on vient de l'apprendre, la délégation parlementaire au renseignement auditionnera Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Cette audition interviendra dans les heures ou les jours qui viennent. Le Kosovo désigne ses députés aujourd'hui après la démission du Premier ministre Ramush Haradinaj cet été. Il a été convoqué par la Cour spéciale de La Haye pour le Kosovo. Ce pays au sud de la Serbie a proclamé son indépendance il y a 11 ans, indépendance que Belgrade ne reconnaît toujours pas. L'une des premières missions des futurs dirigeants, ce sera donc de régler ce conflit avec le voisin du Nord. La population, elle, voudrait surtout régler les problèmes de pauvreté, de corruption et pouvoir compter sur des services publics, Laurent Rouy.
Le Parti démocratique du Kosovo du président Hashim Thaçi et l'Alliance pour le Kosovo du Premier ministre Ramush Haradinaj ne partent pas favoris à ces élections législatives anticipées, sur lesquelles souffle un vent de changement. Ces anciens commandants sont au pouvoir depuis la fin du conflit, sans grand résultat pour le pays, toujours l'un des plus pauvres d'Europe. Deux formations pourraient tirer leur épingle du jeu. D'abord la Ligue démocratique du Kosovo et sa tête de liste, Vjosa Osmani, première femme à mener une campagne électorale, est en tête des sondages. Elle est suivie de près par la formation de gauche nationaliste Autodétermination d'Albin Kurti. Quel qu'il soit, le futur gouvernement sera vite soumis à la pression de Washington et de Bruxelles pour relancer les négociations dites du statut final avec la Serbie. Les discussions avaient été interrompues l'an dernier suite à des sanctions économiques imposées par le Kosovo. Une première étape passerait par la levée de ces sanctions, mais rien ne dit que le futur gouvernement suivra les recommandations de la communauté internationale.
1,9 million d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui au Kosovo. Ils doivent élire 120 députés. 20 sièges sont réservés aux minorités nationales, comme les Serbes. Élection au Portugal aujourd'hui. Le Premier ministre socialiste António Costa est favori, crédité de plus de 35% d'intention de vote. Les Tunisiens aussi renouvellent leur parlement. 8 ans après le début des printemps arabes, les élections se tiennent aujourd'hui entre les deux tours de la présidentielle. Deux tours qui ont vu deux candidats hors système sortir des urnes en tête. Des milliers de Hongkongais sont dans la rue et bravent l'interdiction de manifester le visage masqué. La police tente de les disperser avec des gaz lacrymogènes. La majorité des stations de métro restent fermées aujourd'hui, 2 jours après une soirée de violence et d'actes de dégradation. C'est cette mesure annoncée avant-hier qui a provoqué ces violences. Les opposants chinois dénoncent le recul des libertés face au gouvernement chinois et la situation est toujours tendue, surtout après la diffusion d'une vidéo ces derniers jours qui n'a pas contribué à apaiser la situation. Notre correspondant à Pékin, Simon Leplâtre.
Il est jeune et propre sur lui, chemise blanche, lunettes à fine monture et tient son déjeuner dans une boîte en carton. Difficile de savoir comment a commencé l'altercation, mais elle finit dans la violence. Alors que le jeune homme lance « Nous sommes tous chinois », la foule lui répond « Retourne en Chine continentale ». Lui se tient stoïque, demande en mandarin à quelqu'un qu'il filme de lui montrer sa carte de presse. Le soi-disant journaliste répond en cantonais qu'il ne comprend pas le mandarin. Mauvaise foi et manque de professionnalisme. Un autre journaliste, un photographe étranger, n'arrange rien puisqu'il barre la route au jeune homme qui voudrait rentrer dans ses locaux à l'abri. C'est alors que surgit un manifestant tout vêtu de noir et masqué qui lui envoie plusieurs coups de poing. Le banquier reste choqué un moment. En Chine, la vidéo est devenue virale. Elle a été partagée 11 millions de fois sur le réseau social Weibo. Et les commentaires sont particulièrement hostiles aux Hongkongais. À cette tolérance, il faut arracher les racines et ne rien laisser, affirme l'un d'eux. Ce n'est pas un hasard si la vidéo a pu être diffusée malgré la censure du web en Chine. Les événements de Hong Kong en particulier sont l'objet d'un contrôle extrêmement étroit parce qu'il ne faudrait pas que les Chinois soient inspirés par ce mouvement. Mais la propagande s'est affinée avec le temps. Aujourd'hui, elle laisse passer les éléments qui nuisent à l'image du mouvement. Toutes les actions violentes sont donc les bienvenues. La propagande cherche à peindre le tableau d'un mouvement radical visant à séparer la Chine et, si possible, manipuler par des forces étrangères hostiles. Pas question, en revanche, d'évoquer les manifestations pacifiques qui ont rassemblé plus d'un million de personnes et qui prouvent que le mouvement est authentique et très suivi.
Notre correspondant à Pékin, Simon Leplâtre. L'Église se met au chevet de l'Amazonie et va se poser la question de l'ordination d'hommes mariés. Le synode sur l'Amazonie débute aujourd'hui, il va durer 3 semaines. Les évêques des 9 pays de la région panamazonienne veulent faire entendre le cri des pauvres. L'Église veut en outre protéger les populations indigènes ainsi que le poumon de la planète, massacré par la déforestation, les incendies volontaires et la pollution. Il est 12h39 sur France Culture, la suite du journal avec la face cachée du globe qui s'intéresse aujourd'hui au Cameroun et aux annonces politiques faites dans le but d'apaiser les différentes crises que connaît le pays. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour Louis. L'émissaire américain pour l'Afghanistan et les représentants des talibans se sont vus jeudi à Islamabad. C'est la première rencontre de ce type depuis que Donald Trump a rompu le 7 septembre les négociations avec les rebelles afghans. Aucune des deux parties n'a rendu publique cette rencontre. La police canadienne a-t-elle illégalement partagé avec le FBI américain les données du téléphone de Meng Wanzhou? En clair, ses droits ont-ils été violés? C'est ce que cherchent à savoir les avocats de la directrice financière du groupe chinois Huawei. Ils espèrent ainsi faire pression sur Ottawa pour empêcher qu'elle soit extradée vers les États-Unis. Soupçonnée par Washington d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran, elle a été arrêtée en décembre dernier à Vancouver, puis libérée, mais ne doit pas quitté la ville. L'affaire a provoqué la plus grave crise diplomatique entre le Canada et la Chine. 300 millions d'euros pour aider le secteur touristique espagnol face à la faillite de Thomas Cook. Cette mesure prise par Madrid concernera principalement les archipels des Canaries et des Baléares où le voyagiste britannique était très présent. Il est également question de baisse des taxes aériennes pour inciter les compagnies à se positionner sur les créneaux laissés vacants par les charters de Thomas Cook. Cap sur le Cameroun, où un grand dialogue national lancé à l'initiative du président Paul Biya s'est achevé vendredi. L'objectif était de trouver des solutions aux multiples crises, celles qui secouent les deux régions anglophones du pays et la crise politique née après la contestation des résultats de l'élection présidentielle il y a un an. Parmi les mesures annoncées après cette conférence nationale, la libération de 333 détenus qui devaient être jugés par des tribunaux militaires, l'un d'eux, Maurice Kanto, rival de Paul Biya à la dernière présidentielle, est d'ailleurs sorti de prison hier après y avoir passé 9 mois. Pour ce qui est des deux régions séparatistes anglophones qui représentent 16% de la population du Cameroun, il est question d'un statut spécial. Antoine Glaser, bonjour.
Bonjour.
À 86 ans, dont 37 au pouvoir, on a connu un Paul Biya toujours intransigeant vis-à-vis de son opposition. Est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'un tournant, d'une volonté d'apaisement ?
En tout cas, même si on ne peut pas parler vraiment d'apaisement, on peut dire que c'est une stratégie politique de Paul Biya qui fait d'une pierre deux coups en libérant Maurice Kanto, qui, d'après ses avocats, bien évidemment, n'aurait jamais dû se retrouver en prison. Ça veut dire à quelques jours du procès de Maurice Kanto, il le libère. Donc c'est vraiment le fait du prince et Paul Biya a toujours agi comme ça. Et en même temps, vis-à-vis des sécessionnistes anglophones, il y a également une volonté comme ça de dialogue. Il leur a promis une large décentralisation. C'est une façon de se maintenir au pouvoir.
Des chefs séparatistes anglophones sont en prison, d'autres ont boycotté le dialogue national. Antoine Glaser, que recouvre cette proposition de statut spécial pour ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ?
C'est très difficile, il faut quand même rappeler le statut très particulier du Cameroun. De 1960 à 1972, c'était une république fédérale. On imagine mal retourner à une république fédérale avec un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone. En 2016, finalement, ce mouvement de sécession a été simplement des revendications des avocats, des enseignants anglophones, en considérant que finalement il y avait l'application uniquement de tout ce qui était francophone, en particulier sur le plan juridique. Donc on peut imaginer qu'il y aura sans doute un retour, même si c'est pas la common law britannique dans la région anglophone, mais une décentralisation, c'est moins de présence du délégué du gouvernement francophone et beaucoup plus finalement une cooptation, parce que Paul Biya coopte comme ça par région des barons. On peut imaginer qui coopte des anglophones pour une sorte de décentralisation, en particulier sur le plan de l'enseignement, une certaine souveraineté à ces deux régions anglophones.
Des régions qui sont en crise depuis 2 ans avec des affrontements entre des groupes armés indépendantistes et l'armée. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui la politique d'apaisement du président Biya ?
C'est vrai qu'actuellement le Cameroun est en une situation politique et économique extrêmement difficile avec ces deux régions qui étaient en sécession. Et également, il faudra toujours rappeler que l'extrême nord est sous la pression de Boko Haram. Le Cameroun est un pays stratégique et c'est vrai qu'au niveau international, on a vu des pressions américaines, des pressions françaises pour entamer une forme de négociation. Mais en fait, ça fait quand même 2 ans qu'il y a cette sécession dans ces deux régions anglophones. 2000 morts, il y a eu 500 000 personnes déplacées. Donc, je veux dire, Paul Biya, il a pris son temps.
Merci à vous, Antoine Glaser. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique. À dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel et à la semaine prochaine. Il pleut sur une majeure partie du pays aujourd'hui, excepté l'ouest de la Normandie à la Gironde et autour de la Méditerranée. Bretagne, Normandie et Pays de la Loire pourront même voir apparaître le soleil en fin de journée. Risque d'orage en revanche sur les Hauts-de-France et le nord des Ardennes cet après-midi. Les températures comprises entre 14 et 23 degrés aujourd'hui. Il fera 14 à Strasbourg et à Rodez, 15 à Lille, 16 à Brest et à Dijon, 20 degrés à Toulouse et jusqu'à 23 degrés à Montpellier, à Fréjus et en Corse. La perturbation s'éclipsera ensuite vers l'est en laissant place à des nuages.